Bonjour, bienvenue en ce mercredi 4 mai sur Radio Grille Ouverte 88.2 pour la quatrième émission chronique du mouvement social contre la loi travail à Alès. Donc aujourd'hui sur le plateau, on est 5, on a Léa, Philippe, Vincent, Steph et Sonia. Et donc on va vous parler un petit peu de ce qui s'est passé à Alès depuis mercredi dernier et quelles sont les perspectives. Peut-être un petit point juste pour dire donc le 28 avril et le 1er mai, il y a eu donc des grosses mobilisations sur lesquelles on reviendra. Le 3 mai, donc depuis hier, c'est le début des débats parlementaires sur donc la loi travail passe au Parlement. Elle passera par la suite au Sénat. Et donc d'ici là, c'est important de maintenir la pression, d'autant que les syndicats commencent à sérieusement parler de préparer la grève reconductible et générale. Donc voilà. Alors pour commencer, on va revenir un petit peu sur le 28 avril à Alès, où il y a eu un certain nombre d'actions décidées par l'Assemblée de lutte, dont on vous a déjà parlé, qui se tient tous les lundis à 18h30 à la Bourse du Travail. Ces assemblées de lutte ont été construites petit à petit depuis le début du mouvement contre la loi travail qui a commencé donc le 9 mars. Elles se tiennent depuis le 31 mars à la Bourse du Travail et on y décide collectivement de ce qu'on fait pour renforcer le rapport de force voilà, contre le gouvernement et sa politique d'écrasement de nos conditions de vie et de travail, etc. Donc, on va commencer par écouter un petit enregistrement, enfin deux petits enregistrements, sur un qui concerne la Chambre du commerce et de l'industrie et un autre qui concerne une boîte d'intérim où nous sommes intervenus, notamment pour la Chambre du commerce et de l'industrie, parce qu'il y avait une conférence prévue qui s'appelait « Management, illusion et bonne pratique ».
Les ouvriers ne sont pas invités, les ouvriers. Les ouvriers sont pas invités.
Au contraire.
Ah, merci, monsieur.
C'est pour ça que c'est dramatique et c'est terrible.
Oui, c'est dramatique, c'est terrible.
Vous voyez comment vous laissez faire cette petite conférence, comment mieux baiser les salariés comme ça, tranquillement, bon, en plein mouvement contre la loi travail.
S'il vous plaît,
vous avez mal choisi votre moment.
Je crois qu'écoutez, on va reporter cette réunion et vous allez me laisser là.
C'est bon,
on va discuter.
C'est la CGPME, c'est le MEDEF, ils sont en train de négocier actuellement sur les accords Unedic et la loi travail qui est en train de passer. Et ça, c'est qui? Mais c'est qui négocie? C'est vos syndicats? C'est vos syndicats? C'est la CGPME, le MEDEF, vos syndicats? Nous aussi, on a des syndicats, nous aussi. Et nous aussi, on se défend. Et c'est un rapport de force, monsieur. C'est un rapport de force. Et ça s'appelle la lutte des classes, ce rapport de force,
monsieur.
La lutte des classes. Et oui, monsieur, ça existe.
Non, mais écoutez, je pourrais discuter avec vous des heures. Hein, et on a des points différents. Nous, on a une entreprise, elle ne se fait pas seule, elle se fait avec des collaborateurs. Point final.
En fait,
ce sont les deux.
Évidemment, vous avez trouvé le bon mot. En fait, le management, c'est le travail pour trouver de nouveaux mots. Les nouveaux mots, c'est collaborateur pour dire employeur et salarié, on est collaborateur. Ça s'appelle la conciliation de classe, en fait. Vous voulez nous faire croire? C'est une idéologie pour nous faire croire qu'en fait, on est ensemble, qu'on est collaborateur. Que nous, en fait, votre travail, votre travail de merde que vous nous faites faire pour vos putains de profits, en fait, on devrait collaborer pour vos profits. Ah, ça, c'est. Il est beau ce langage. Ça, c'est le langage des managers. Voilà.
Justement, le patronat, pour être violent, il n'a pas besoin d'y mettre les formes. Oui. Il peut être habillé en chemise.
Non, on s'en fout, ça.
Et justement, les managers de Air France qui se font arracher la chemise, et ben, ils ont reçu de la violence qui est bien visible. Mais c'était face à quoi? C'était face à des gens qui allaient mettre 3000 personnes au chômage.
C'est compliqué.
Ça, c'est une grande violence.
Mais je comprends très bien ce que vous dites.
Mais cette violence, comme ils ont le pouvoir, ils n'ont pas besoin d'être exubérants. Ils peuvent la mettre en place.
Ce que vous dites, c'est pas faux.
blague, ça existe.
Attendez, on va pas se faire. Qui c'est qui n'a pas fait de trucs comme ça en disant voilà? Non mais évidemment, tout le monde.
Si vous voulez,
le principal, je vais vous dire un truc, le principal du blague, c'est que l'argent revienne dans le circuit, c'est tout. Ça aille pas dans un trou ou que ça parte pas à l'étranger. Si l'argent revient dans le circuit, c'est tout bon.
C'est-à-dire, vous voulez dire dans le circuit des cotisations patronales, des cotisations fiscales, des cotisations
dans le circuit économique. C'est-à-dire, vous parlez tout à l'heure du boulanger, je vais acheter mon pain, je vais acheter mon truc.
Quand vous payez quelqu'un, il le remet dans le circuit.
Vous êtes d'accord
avec moi? Oui, vous êtes d'accord avec moi. Mais quand vous payez quelqu'un au black, il le remet aussi dans le circuit.
Mais évidemment.
Sauf qu'il cotise à aucune cotisation sociale.
C'est pas normal.
Ah, non, mais quand vous dites que
moi,
c'est
je parle
normal.
Pas.
Vous me dites que c'est normal. Que
je parle pas. Je vais pas parler de payer, moi. Je vais pas parler de payer. Vous êtes artisan, vous venez me voir, on a un chantier. Vous me dites, tiens, cette part de chantier, moi, bon, j'ai pas besoin. Il y en a pour 50 euros. Si vous me le filez comme ça, ça m'arrange. Je vais pas. Je vous. Non, mais. Mais c'est humain, ça.
Mais c'est humain, ça.
Mais bien sûr,
attendez, monsieur, il y a des règles, il y a des rois, il y a des lois, vous nous donnez des leçons sans cesse.
Mais je sais,
vous êtes là en train de nous donner des leçons et vous dites
non,
est-ce que je vous donne de ne pas déclarer de l'argent et de ne pas payer de cotisations sociales.
Je ne suis pas pour vous donner des leçons, j'ai pas de leçons à vous donner.
Non, mais c'est incroyable. Mais, non, mais...
D'ailleurs, on a tous des leçons à se donner.
Excusez-moi, vous, oui. dites que vous n'avez pas de leçons à nous donner, mais en fait, aujourd'hui, il me semble que c'était. Le thème d'aujourd'hui, c'était management, deux points, illusion et bonne pratique.
En fait, les petits patrons, c'est des prolos refoulés.
Non mais c'est pas combien on gagne qui est important, c'est combien on doit.
Vous pouvez compter sur moi.
Je sais, parce que vous, peut-être que vous gagnez pas beaucoup, mais quand vous couchez ce soir, vous avez quand même l'esprit tranquille de dire je dois payer à personne.
Vous croyez, parce que vous croyez que quand on est salarié ou quand on est chômeur, on ne doit plus rien à personne et qu'on n'a pas de dette et qu'on n'a pas de crédit et qu'on n'est pas dans la merde.
Je pense pas que vous avez la même charge que chef d'entreprise.
Je rémunère bien mes collaborateurs et pourtant ils ne sont pas motivés.
Oh,
merde. Oh,
merde. Je vais juste poser un CV.
Eh oui, vous cherchez du travail?
Oui, bien sûr, oui, sinon je serais pas là.
Okay. Vous êtes au courant qu'il y a une manifestation contre la loi travail cet après-midi?
Non, pas du tout.
Bon, vous avez entendu parler de la loi travail?
Oui, un peu, ouais.
Vous savez que ça va être encore, ça va empirer nos conditions de travail et surtout.
Oui, je suis au courant.
Bon, en tout cas, il y a une manifestation à 10h30 aujourd'hui dans Alès contre la loi travail. Il y a un mouvement, peut-être vous avez entendu, enfin en même temps, les médias font un peu blackout par rapport à ça, mais il y a quand même un mouvement qui essaye de lutter contre cette loi qui va nous rendre encore plus précaires alors qu'on l'est déjà pas mal. Quoi. Quand on est vétérinaire, vous devez pouvoir nous...
Oui, et puis en tant que personne qui n'est pas bête, oui, j'ai bien compris cette loi. C'est-à-dire que le patron fera ce qu'il veut.
C'est ça. Donc là, nous, on est venu demander quelques comptes. Mais on ne veut pas vous empêcher de...
Ben non, en attendant, je suis quand même obligé de chercher.
On retrouve le petit chef. Alors,
Coudain, c'est une promotion. Coudain, c'est exactement la loi, là. Coudain, c'est exactement ce que... Ils ont 10 ans d'avance sur la loi. C'est horaire comme on veut. Du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, puf, on n'est plus là. Là, oui, là-bas, vous feriez mieux d'y aller.
Vous parlez de la boîte Coudaine, là?
Ouais, l'usine Coudaine.
Vous y avez travaillé?
Ouais, pas longtemps, parce que je sais pas. Mais vous commencez à 5h du matin, on vous dit 5-13, et vous finissez à 4h30. Sans avoir le droit de prévenir votre famille, sans avoir le droit de manger, sans... Voilà, si vous mangez, on vous le déduit. Non, c'est pas... Non, c'est pas de leur faute. Ah, oui. Je suis d'accord, hein. J'ai bossé dans une usine où ça allait pas du tout, c'était déjà ça, donc à côté de ça, c'est vrai, on est parti dans un truc où ils sont protégés par tout le monde.
Là, le truc, c'est qu'on est retour au 19e siècle, bientôt.
Moi, comme j'ai dit, j'ai bossé chez Coudaine, ils n'ont pas attendu que la loi soit votée. Hein.
Ah ben non,
c'est
ah
des...
Ben non,
hein. Coudaine, c'est...
35 ans qu'ils fonctionnent comme ça.
Mais c'est pas eux, hein.
Non, mais ils ont pu exister parce qu'il y a une crise, sinon ils n'auraient pas existé.
Ouais, mais c'est pas les boîtes d'intérim, hein. La boîte d'intérim ne fait que prendre des contrats avec un cahier des charges.
Monsieur, oui, on va y aller parce qu'il y a la police qui a l'air de nous attendre.
Ouais.
Mais par contre, sachez que de midi à 13h, tous les mercredis, sur Radio Grille Ouverte, il y a des chroniques lutte. Vous pouvez suivre le mouvement contre la loi travail sur RGO. Merci.
Ok, ben voilà le petit son sur la CCI, la chambre de commerce, où le jeudi 28, on a décidé avant la manif de faire quelques petites actions pour garder la pression sur le gouvernement et contre cette loi travail. Donc elles sont très sympas, on était une trentaine de personnes, je dirais, à peu près, voilà, on s'est invité, c'était une réunion publique, hein, on n'a pas forcé l'entrée ni rien. On avait même certains avaient des invitations. Donc bah voilà, on s'est invité là dans l'espoir de se faire entendre. Et bah, je sais pas si on s'est fait entendre. En tout cas, vous avez pu nous entendre. C'était très sympa. On a bien rigolé. Pour planter un peu le décor, donc c'était pratiquement que des, c'était dans une petite salle, que des chefs d'entreprise à l'origine, bien qu'on découvre après qu'il n'y avait pas que des chefs d'entreprise, il y avait aussi des gens qui cherchaient du travail, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, si. Et voilà, petit croissant, pain au chocolat, jus de fruits, tout ça animé par monsieur De Faria, le maire de Saint-Ambroix, et une intervenante extérieure. Voilà, on a pu discuter.
Madame Labèze, elle s'appelait l'intervenante.
Pas mal, Madame Labèze. Voilà.
Vous étiez habillé en bleu de travail, je crois, non?
Ouais. Alors voilà, on était tous en bleu de travail. Pas tous d'ailleurs, parce que certains, il y avait un cuisinier, il me semble aussi dans la bande.
Il y avait des blouses blanches, non?
Peut-être. ouais, c'était plutôt dans l'idée. On était plutôt là, dans l'esprit festif. Après festif de ben, voilà, on voulait pas, mais ils avaient pas l'intention de nous laisser trop parler non plus, donc
Oui, et puis nous on n'avait pas non plus envie de les laisser parler et faire leur petit apprentissage de comment mieux gérer les conflits entre salariés et patrons tranquillement, quoi. Enfin, un des enjeux, c'est vrai que c'était aussi que cette petite réunion sauterie puisse pas avoir lieu, quoi.
Bon, oui, c'est ça.
Elle a été reportée, hein, mais on a pu prendre un petit peu de croissant et des choses comme ça pour les donner aux manifestants après.
Bah, un petit peu, on n'en a pas laissé surtout, quoi.
Le titre était intéressant quand même. Illusion et bonne pratique, puisqu'on n'a toujours pas compris exactement ce qu'était le titre, en fait. Management, illusion et bonne pratique. Alors, est-ce que c'est l'illusion des bonnes pratiques? Est-ce que c'est les bonnes pratiques qui sont une illusion? Ou le management en lui-même qui est une bonne pratique ou une illusion? On n'a pas trop compris, en fait. Hein. Et ils n'ont pas su nous expliquer non plus en même temps, hein, ce qui était le thème de leur... Donc, ouais, bah, voilà, c'était bien sympa.
Donc voilà, bah du coup, à la sortie de la CCI, donc on s'est retrouvé donc sur la CCI, donc c'est au niveau de la rocade sur Alès, et bah, donc on a fait une petite distribution de tracts sur le rond-point de la rocade, bah, parce que on était encore avant la manif qui était à 10h30, on était encore au petit matin, et bah, pour inviter les gens qui circulaient sur la rocade à nous rejoindre à la manif juste après. Et là, au bout d'un moment, on s'est aperçu que juste à côté, on avait une boîte intérim, l'agence Proman, là, qui était juste à côté de nous. Et on s'est dit, avant de partir et d'aller rejoindre la manif, on s'est dit, on va aller faire une petite visite aussi à Proman, pour leur dire tout ce qu'on a, on peut pas leur dire tous les jours. Mais pour ceux qui sont intérimaires, quand on est tout seul, aller réclamer notre salaire et nos primes de panier, nos primes de déplacement, et qu'on se fait envoyer bouler parce qu'on est isolé. Ce coup-ci, on était en grève, on était nombreux, on est allé leur faire une petite visite. Et donc ça, c'est ce que vous avez entendu dans la deuxième partie. Et voilà, donc ce que vous avez entendu, c'était quelqu'un qui venait déposer un CV au moment où on était dans l'agence intérim, et qui nous parlait de ses conditions de travail, là pour le coup, donc dans l'entreprise
Couden.
Et voilà, donc c'était cette petite visite. Et juste après donc ça, c'était donc la manif à 10h30. Et donc là, on va écouter un petit peu ce qui s'est passé pendant la manif.
La manifestation du 28 mai rassemble en France 170 000 personnes selon la police, 500 000 selon les organisations syndicales ouvriers, 0 selon les organisations syndicales patronales. On peut noter que le journaliste, retranché derrière le mythe de la neutralité, lui, ne sait pas compter. Du nombre, on s'en fout. Ce que l'on voit, ce que l'on ressent, c'est que la détermination du rejet de cette loi pourrie est toujours là. A-t-on compté le nombre des maires de la place de mai en Argentine? Non. Alors leurs chiffres, on s'en cague.
Dans ces manifestations, que l'on soit du privé ou du public, salariés ou chômeurs retraités, tous et toutes sont venus encore une fois dire leur refus de cette société-là, de cette mascarade de la modernité socialo-libérale sauce MEDEF. Pendant cette manifestation à Alès, j'ai tendu le micro. Il en ressort deux grandes idées de forte. Ces manifestants ne sont pas directement menacés par cette loi. Ils et elles sont là pour les autres. Pour vous qui ne pouvez pas poser facilement un jour de grève, ils sont là par solidarité. Eh oui, ça veut encore dire quelque chose, la solidarité. Et ce qui est le plus détérioré, au cours de ces 30 dernières années, selon eux, bien sûr, il y a le salaire. Mais bien plus présent, c'est le manque d'effectifs sans changement du volume du travail. C'est le travailler plus, moins en moins nombreux. La solution, embaucher. Écoutons le témoignage de deux salariés.
Voilà, donc c'est juste une discussion comme ça entre nous, là, dans la manifestation qu'il y a aujourd'hui à Alès, sur les conditions de travail. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire de vos conditions à vous de travail ?
Ah ben, elle cesse de se dégrader, hein, dans beaucoup d'entreprises. Dans beaucoup d'entreprises, c'est la productivité d'abord, et malheureusement, les conditions de travail passent au second plan.
Mais quand vous dites les conditions de travail se dégradent, c'est-à-dire concrètement, vous, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous avez vu évoluer dans le temps
De moins en moins de salariés. Vous, hein, de moins en moins de salariés, une érosion des effectifs, et on en demande toujours autant, même toujours plus, quoi.
Un petit peu l'idée que l'on a en général de dire ils ont réduit les effectifs mais pas la masse de travail à faire. Quoi.
Ah ouais.
Donc vous faites presque dans le...
plus avec une dévalorisation des métiers, une non-reconnaissance de certains métiers. Et, enfin, non, c'est de plus en plus dur.
Et vos heures supplémentaires sont payées
Alors nous, oui, encore on a cette chance-là dans une grosse entreprise d'avoir les heures supplémentaires et qu'ils soient assez réglo là-dessus. Mais bon, c'est malgré ça, les conditions de travail se dégradent.
Là, les collègues, vous avez les mêmes impressions?
Ouais, moi, j'ai le même ressenti que mon collègue. Et à savoir aussi que, faisant partie d'une grosse entreprise, les nouveaux embauchés n'ont pas le même statut que les anciens. Quoi. Donc, on leur a même pris sur leur congé. Quoi. Et donc, effectivement, moi, je vois pareil. Hein, toujours autant de travail, beaucoup moins d'effectifs. Moi, je suis rentré dans cette boîte il y a 28 ans de ça, et l'effectif est à moitié. Là.
C'est bien simple. En 28 ans, ils ont baissé la moitié. Ils n'ont pas réduit la production.
Alors, non, on ne voit pas.
Non, le chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter. Quoi. Donc, on le voit, c'est le profit et les êtres humains, ça passe au second plan.
Au moment où vous avez commencé à rentrer dans la vie active, c'était pas la même histoire quand même.
Oui, là on est en train malheureusement de perdre cette force, cette énergie. Les derniers recrutés chez nous, ils font 12 jours de travail de plus gratuitement par rapport aux anciens, ce qui est énorme.
12 jours gratuitement.
Gratuitement. Non, il y a une dégradation. Et puis même les organisations de travail à l'intérieur de l'entreprise font que... Ben, on a sapé les solidarités qu'il pouvait y avoir. Donc c'est vrai qu'on est dans un système beaucoup plus individualiste. Avec il n'y a plus du tout la même ambiance.
Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment changer là pour que...
Il faudrait nationaliser toutes les entreprises du CAC 40 hein, et passer sous un système coopératif. Ça irait, ben, je pense, beaucoup mieux.
Tout à fait d'accord.
Bon, ben, vive la lutte.
Et voilà, et donc après c'est cette manif, déjà après la CCI, après l'intérim, et donc après la manif, on était toujours motivé. On n'avait pas envie de s'arrêter là, on n'avait pas envie de s'arrêter après la manif. Et donc on s'est dit qu'il était midi, 1h, et que c'était la bonne occasion d'aller offrir une pause syndicale aux travailleurs du McDonald's. Et donc on s'est invité au McDonald's afin de discuter avec les employés qui se trouvaient sur place, les clients aussi éventuellement, et aussi les managers du McDonald's. Donc on a pu discuter un petit peu avec eux sur leurs conditions de travail, sur ce qu'ils pensaient de leurs conditions de travail. Oui.
Ouais, en fait, il y a quelques employés qui ont évoqué le fait que effectivement travailler chez McDonald's pouvait être une solution en fait d'appoint et en discutant un peu plus avec les personnes, il s'est avéré que certaines personnes en fait sont là depuis 17 ans. Donc en fait des boulots d'appoint qui durent quand même depuis 17 ans avec des conditions de travail, c'est-à-dire des horaires qui sont un peu éparpillés dans la journée, enfin voilà des conditions qui n'arrangent pas forcément les salariés et qui finalement précarisent leur situation.
Et surtout, en fait, au McDo, ce qui est généralisé, dans tous les McDo, ce qui est généralisé, en fait, c'est que tous les contrats sont en CDI. Donc voilà, ils font un pied de nez à ce qu'on pourrait croire de la précarité. Donc là, eux, ils offrent à tout le monde, mais en fait, on n'a pas le choix. Quand on rentre à McDo, c'est un CDI, mais un CDI de 25 heures, c'est-à-dire un contrat à mi-temps, et qui, en fait, qui laisse aucune perspective pour vivre, en tout cas, avec un 25 heures. Bah, on imagine bien le salaire qu'on a à la fin du mois, quoi.
En sachant que c'est 25 heures, mais souvent découpé, on vient un peu le matin, on revient un peu le soir, on revient 2-3 fois par jour sur le lieu de travail. Donc rien de réjouissant pour gagner 600-800 euros par mois. Quoi. Enfin, voilà.
Le rêve des managers de la CCI, non?
C'est ça.
Illusion et bonne pratique.
C'est ça.
Voilà, et du coup, bon, donc ça c'était juste pour rappeler, en fait, à la fin de la manif, il y avait une assemblée qui s'est tenue sur la place de la mairie, et c'est de là qu'a été décidé d'aller au McDonald's. Et ailleurs qu'à Alès, à Nîmes, le matin, dès 6h du mat, en fait, il avait été décidé par l'intersyndicale de Nîmes et aussi des personnes de Nuit Debout sur Nîmes d'aller bloquer une zone industrielle à Nîmes. Donc voilà, ils ont tenu 2 heures, de 6h à 8h. Donc je ne me rappelais plus le nom de la zone industrielle, vous m'excuserez, mais voilà, c'était une grosse zone industrielle sur Nîmes. Donc voilà, ça c'était à Nîmes. Et à Marseille aussi, ce qui a noté, c'était qu'il y a, donc, il y a eu pareil, une grosse manif vraiment très massive. Avant le début du cortège syndical, donc il y a des lycéens et d'autres personnes, des précaires, des chômeurs non encartés qui ont démarré un cortège et qui a rejoint le cortège syndical. Et donc la manif s'est tenue. Et en fin de manif, pareil, donc il y a une grosse partie de cette manifestation qui n'a pas voulu s'arrêter là, qui a continué donc dans Marseille et qui a continué à déambuler en avançant malgré le blocage des forces de l'ordre. Et cette manif s'est finie en fait sur les rails derrière la gare Saint-Charles. Donc les manifestants ont réussi à envahir les rails et à bloquer en fait pendant un long moment en fait les voies, et ce qui a fait beaucoup de perturbations au niveau des trains. Voilà, donc ça c'était un moment fort en tout cas donc de cette journée du 28. Et voilà, peut-être.
Et aussi à Paris, il y a eu un blocage du plus gros port d'Île-de-France là, qui se situe à Gennevilliers. Donc dès le matin là, une action qui avait été décidée au sein de comités d'action, d'assemblées de lutte, tout ça. Et ça a duré quelques heures, à quelques centaines, de quand même réussir à bloquer cette plateforme énorme. Et j'ai envie de dire que ce qui ressort un peu de cette journée, de ces différentes actions, parce que là on les cite pas toutes, mais il y en a eu à Rennes, il y en a eu un peu partout, et au Havre sûrement aussi, si le Havre, depuis le début du mouvement, il y a toujours des blocages du port, des autoroutes ou ceci, cela. Et en tout cas, ce qui ressort, c'est vraiment cette nécessité à un moment de bloquer quelque part des points économiques forts, d'avoir une force de perturbation en fait du cours normal des choses. Et c'est vrai que... À défaut d'avoir des grèves illimitées ou dures, générales, etc. En tout cas, ces blocages économiques sont importants pour dépasser juste la question d'exprimer un désaccord, etc. Puisque de toute façon, on sait que le gouvernement n'écoutera pas et que ça passe pas. Tant qu'on touche pas au portefeuille, a priori, on sera pas une pression suffisante.
Et donc là, en fait, on va écouter
un petit morceau, petite pause musique avec Poulailler Song, une vieille chanson d'Alain Souchon des années 70.
Dans les poulaillers d'Acajou, les belles basses-cours à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion, qui disent on peut pas être gentil tout le temps, on peut pas aimer tous les gens. Ces campeurs sous mes persiennes, mais comprenez-moi, c'est dur à voir quels sont ces gens sur mon plongeoir.
passion de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent, on peut pas aimer tout Paris, n'est-ce pas? Il y a des endroits la nuit où les peaux qui vous font la peau sont plus bronzées que nos petits poules beaux. Mais comprenez-moi, la djellaba, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, il y a des taxis qui ont peur du noir. Joue les belles basses-cours à bijoux. On entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traînes de misère? On dirait qu'ils n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, c'est inquiétant, nous vivons des temps décadents. Mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père. C'est parce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y'a des taxis qu'on perd du noir. Mais comprenez-moi, c'est une migraine, tous ces campeurs sous mes persiennes. Ne croyez pas que je sois borné, le genre rétrograde avancé. Je compte parmi les gens que j'aime bien un jeune avocat africain. N'est-ce pas, cher ami?
Et donc voilà, on est toujours sur Radio Grille Ouverte et vous écoutez la quatrième chronique sur le mouvement social à Alès. Donc voilà, donc on vient de parler un petit peu de tout ce qui s'est passé donc le 28 avril, donc une journée de mobilisation nationale. Et voilà, donc le 1er mai, donc quelques jours après, donc dimanche, il y a eu c'était la journée internationale de lutte des travailleurs. Et dans le cadre de cette mobilisation contre la loi travail, il y avait donc des appels à venir nombreux dans les manifestations un peu partout en France. À Alès, il y a eu une manif qui s'est tenue, et à l'issue de la manif, il y a eu un pot à la Bourse du Travail pour discuter, pour se rencontrer entre syndiqués, non syndiqués, un peu tout le monde, toutes les personnes en lutte, et discuter de la suite du mouvement. Sur Marseille, ce qui est à noter, c'était que suite à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'occupation des rails sur la manif du 28 et cette manif sauvage à la fin du parcours déclaré, les flics étaient sur les dents dès en amont de la manif, et il y a eu de nombreuses fouilles de personnes qui se rendaient à la manif en amont de la manif, et cette interpellation. Et donc des personnes qui sont ressorties le lendemain qui ont été présentées en comparution immédiate. Donc on reparlera de la répression un petit peu après. Et voilà, donc peut-être Sonia, tu voulais parler de Paris?
Oui, Paris. Et en fait, j'ai même envie de revenir un peu en arrière, parce que en fait, ce qui s'est passé le 1er mai, je pense, à Paris et au niveau national, c'est un peu, je le vois un peu comme un point d'orgue d'une stratégie du gouvernement depuis le début, qui essaye d'essayer de tuer dans l'œuf, en fait, la moindre contestation, la moindre organisation. C'est vrai que les syndicats sont assez timorés depuis le début sur le fait de lancer des mobilisations dures, durables, etc. Du coup, il y a une forte organisation, on va dire, en dehors des syndicats, en fait, qui mobilise plein de gens et qui est un peu plus difficile à contrôler. Et donc ça fait peur au gouvernement. Et dès le début, en plus, dans le cadre de l'état d'urgence, il y a des tentatives vraiment de à la fois empêcher le mouvement, le diviser, le réprimer. Alors ça s'est manifesté par des fermetures administratives de fac qui prévoyaient de bloquer pour que des assemblées générales du coup ne puissent pas se tenir non plus dans ces espaces-là. C'est des policiers qui des policiers, les forces de l'ordre qui encore hier ou avant-hier attendaient les lycéens devant les lycées pour empêcher les blocages. C'est énormément d'interpellations. Il y en a eu 214 en France le 28. C'est des blocages. Ah oui, alors à Paris aussi, il faut savoir que les cortèges de manifestants sont systématiquement bloqués par des rangées de CRS qui se mettent en tête des cortèges et qui décident un petit peu de quand est-ce que ça avance, quand est-ce que ça avance pas. Voilà. Et donc là, le 1er mai, il y a eu un déploiement quand même de encore plus fort des forces de l'ordre. Et une tentative de scinder le cortège en deux à Paris. C'était assez important parce que donc juste avant il y avait le ministère de l'Intérieur qui avait fait un peu un appel du pied aux syndicats en demandant à ce que les services d'ordre soient renforcés et à ce que en gros les syndicats quelque part se désolidarisent de d'autres cortèges, d'autres parties du cortège qui sont en fait la tête de manif depuis maintenant le 31 mars, c'est-à-dire un cortège avec plein de gens qui sont pas spécialement encartés, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens très en colère, ce qu'on appelle des casseurs. La lutte, elle est multiforme. Donc effectivement, il y a des vitrines de banques, il y a des panneaux publicitaires qui nous pourrissent la vie et qui s'en mettent plein les fouilles. Tout le temps. Donc ces trucs-là, effectivement, ils pètent. A priori, ça pose pas tellement de problèmes à qui que ce soit parce que la colère, elle est là. Et donc un des enjeux du 1er mai, c'était vraiment de désolidariser ces pratiques-là des cortèges syndicaux, de formes de lutte qui seraient plus responsables, plus gentilles, plus pacifiques, etc. En vrai, ce qui s'est passé du coup sur le terrain, c'est que les flics, les CRS, les gardes mobiles ont été envoyés donc pour encadrer devant, sur les côtés, partout la manif, et se sont aussi déployés au milieu du cortège en espérant diviser la tête de manif, enfin séparer la tête de manif du reste du cortège fait de milliers de personnes, et c'était plus possible d'avancer. Donc ça s'énervait. Et ce qui a été proposé aux syndicats, c'était de dévier leur parcours. Et en fait, là, la réponse, elle a été très forte et très claire dans la rue ce 1er mai. Et ça, je pense que c'était pas qu'à Paris, ça a été aussi vu à Marseille et ailleurs. C'était « on avance ensemble, on manifestera ensemble, toutes les formes de lutte sont dans le mouvement contre la loi travail et il n'y a pas de division qui tienne ». Alors ça, c'est de toute façon des rapports de force aussi. On sait que les grands cadres des syndicats n'étaient peut-être pas chauds pour ça, mais en tout cas, apparemment, il y a eu beaucoup de débats et les bases ont vraiment poussé à ça.
En fait, je ne sais pas si tu vas t'aller parler, il y a même une déclaration de Martinez, le responsable national de la CGT, qui n'a pas fait un discours de ouf de solidarité avec ce qui s'appelle dans la presse les casseurs, mais en tout cas qui ne s'est pas du tout désolidarisé, qui a dit que une manif, là les flics ont essayé d'empêcher le cortège de se dérouler comme les syndicats et les gens personnes en lutte avaient voulu avancer, et que juste, le fait que les flics empêchent les manifestants d'avancer, évidemment, ça provoque la colère. Et c'est Martinez, le responsable national, qui le dit. Donc, c'est quand même qui, du coup, ne se désolidarise pas, du coup,
dénonce une stratégie aussi du gouvernement, du coup.
Oui, l'oppression est dans les manifs.
Moi, j'ai envie de aussi, j'avais relevé quelques témoignages, par exemple celui d'un militant syndical à Rennes. Qui dit « il n'y a pas de casseurs qui s'infiltrent et cassent pour le fun. Des gens revendiquent ce mode d'action, ciblent des banques ou des grandes chaînes pour marquer une insurrection. C'est ce qu'on appelle les autonomes, mais ils ne sont pas en marge du mouvement social, ils sont intégrés au cortège. » Ailleurs, on a aussi des lycéens qui disent « Le gouvernement parle de méchants casseurs en marge de la manifestation pour décrédibiliser notre mouvement. Nous sommes organisés indépendamment des syndicats et c'est ce qui fait peur au gouvernement. » D'autres qui rajoutent « Maintenant, tout le monde met des foulards et des masques. On se fait tous matraquer et gazer à la même enseigne. Et quand les policiers encerclent la manifestation et nous bloquent pendant 2 heures, c'est énormément de pression et une colère qui monte de plus en plus. »
Oui, parce que sur l'histoire des masques et des lunettes, c'est vrai qu'il ressort énormément dans les témoignages que les gens, en fin de compte, ils sont noyés sous les fumigènes. Donc, il n'y a pas d'autre solution si on veut manifester dans ces grandes villes que d'être masqué et avoir des lunettes. Sinon, on ne tient pas.
Mais pour le coup, ce qui est... Bon, voilà, moi, il se trouve que j'étais à Paris à ce moment-là. Et ce que j'ai trouvé émouvant et marquant, et je crois que tous les témoignages que j'ai pu croiser sur Internet vont un peu dans le même sens, c'est qu'il y avait une réelle solidarité face à ça, une envie que ce cortège puisse rester uni, parce qu'il n'a pas été divisé dès le début, mais il y avait vraiment un souci de rester ensemble, d'avancer ensemble et de ne plus avancer tant qu'on ne nous réunissait pas à nouveau ensemble. Donc vraiment, les forces de l'ordre ont été obligées à un moment de reculer, et quand il y avait des gazages, des lacrymos, des tirs, etc., et ben il y avait tout un tas de gens qui, en fait, de manif en manif, s'étaient bien rendu compte de quel était le rapport de force vis-à-vis de l'État dans le cadre de ce mouvement, et donc qui avaient des trousses médicales, des pchites à mettre dans les yeux, du sérum physiologique, et on pouvait pas rester 2 secondes après un gazage tout seul sans qu'il y ait quelqu'un qui dise « Est-ce que tu as besoin de ça ? Est-ce que tu as besoin de ça ?» Il y a eu énormément de blessés, mais une grande, grande solidarité. Des gens qui font des cordons autour de personnes blessées pour empêcher les forces de l'ordre de continuer à matraquer et à faire n'importe quoi alors qu'il y a des blessés au milieu des manifestants. Enfin voilà, c'était vraiment très, très fort, cette cohésion, cette solidarité face à cette répression et dans cette envie d'un moment refuser de courber les chines et faire plier le gouvernement sur cette loi travail.
Dans ce sens-là, il y a un témoignage très fort sur un site qui s'appelle Paris Lutte Info, et où il y a une personne qui fait partie de la médicale, enfin du groupe médical qui est dans la rue, et qui explique ce qui se passe à un moment donné parce qu'ils sont en train d'intervenir sur une personne qui a reçu une lacrymo ou une flashball dans la cheville, et qu'elle a l'artère qui est coupée. Donc il faut maintenir un point de compression, et un point de compression ne peut pas se lâcher. Et elle explique que les manifestants, donc ça c'est sur la place de la Nation, les manifestants l'entourent. Malgré les charges CRS, malgré les lacrymos qui leur tombent dessus, les manifestants entourent ce groupe-là pour protéger cette personne. Donc c'est effectivement très fort, l'histoire de la solidarité.
Et peut-être pour faire transition avec la suite, parce que évidemment une des grandes armes du gouvernement dans cette stratégie d'empêcher le mouvement à la fois de s'exprimer et de réagir, c'est les médias. Et du coup, par rapport à tout ça, on vous invite à aller voir, à suivre un peu le mouvement partout en France, à la fois sur les sites comme Paris Lutte Info, Le Pressoir, qui est un site qui relaie les infos sur Montpellier et alentour, Yaata sur Toulouse, Marseille Info Autonome pour la région de Marseille, Bouches-du-Rhône, tout ça. Enfin voilà, en tout cas, il faut à tout prix se renseigner sur Internet, chercher, parce qu'il y a vraiment une grosse stratégie un peu de blackout et de division, un truc très mensonger menée par les médias.
Depuis longtemps, la technique des médias est bien rodée, elle est huilée. Cela ne les empêche pas à chaque fois d'utiliser la même recette. C'est juste les ingrédients qui vont changer. D'abord, préparer l'opinion publique à l'impérieuse nécessité de réformer. Il faut légitimer les sacrifices à venir pour notre futur bonheur. La réforme, c'est la modernité. Le code de travail, c'est l'archaïsme, la cause du chômage. Trop volumineux, illisible, personne ne le comprend plus. Ce vieux code hérité du siècle dernier n'est plus adapté à notre monde, à leur monde. Trop rigide, pas assez flexible. De la flexibilité, bordel. Ils inventeront même un mot pour nous rassurer. La flexi-sécurité. La France est ringarde. Nos voisins et amis européens l'ont faite, eux, cette nécessaire réforme. Ils s'en portent bien mieux, non ? Alors ? La grogne monte. Alors là, les chiens de garde sont lâchés. La meute s'élance, la bave dégoulinante de mépris. Il faut bouffer du contestataire de la gréviste. Ces réactionnaires qui ne comprennent rien. Accrochés, arc-boutés à des privilèges. Parce que bien sûr, ceux qui font grève, ce sont les fonctionnaires, celles et ceux qui sont protégés derrière leurs avantages. Ils osent prendre en otage les usagers, abandonnés sur le quai d'une gare surpeuplée de leurs semblables. Ces syndicats qui ne défendent plus les travailleurs. D'ailleurs, même les travailleurs leur tournent le dos, ils ne représentent plus rien. S'ils défendent leur statut. Les syndicats réactionnaires et conservateurs, tournés vers un passé qui n'existe plus que dans leurs reliques poussiéreuses, ils sont plus bons qu'à bloquer les réformes, à enlever le pain de la bouche des chômeurs et précaires qui, grâce à cette réforme salvatrice, pourraient enfin trouver un emploi et brisent l'avenir de la jeunesse. Puis ce sera le tour des lycéens. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent au monde du travail, les lycéens? Hein? Ils n'ont même pas lu cette loi. Ils et elles sont juste là pour sécher les coups. Pff, de la graine de fainéant. Discrédibiliser, salir, rabaisser les contestataires, ça mange pas de pain et ça justifie le mirobolant salaire de ces journalistes qui n'ont jamais et qui ne feront jamais grève, eux. C'est une contestation? Non, une révolution qui germe. Malgré toute leur dévotion à la lettre des directives de leurs milliardaires propriétaires, la révolte gronde. Alors, désinformant ou blackout total. La mobilisation n'existe pas, puisqu'on n'en parle pas. C'est nous qui choisissons ce qui est ou ce qui n'est pas. Nous sommes, nous, la voix de nos externes. Non. La voix du peuple. D'abord, le mouvement s'essouffle, la mobilisation faiblit, les cortèges fondent comme neige au soleil printanier du mois de mai. Le dernier barouf d'honneur. Parlons de toute autre chose. Le foulard à l'université, on nous ressortira même le Front National, pourtant si muet sur la question de lutte de classe. Et qu'est-ce que ça faisait du bien de plus les entendre. Si ça suffit pas, alors sortons l'arme suprême, la peur. Les casseurs, ils viennent uniquement là pour casser. Ils n'ont rien à voir avec le mouvement. Ces hordes cagoulées et masquées, aguerries à la guerre de rue, organisées, militarisées, venues casser du flic, s'affronter avec les SRS. Mais qui sont-ils? Que veulent-elles? Rien. Détruire notre si beau et bon système. Ce sont de violents et dangereux anarcho-bolcheviques libertaires ultra-ultra-gauchistes de la chienlit, je vous dis. Des policiers débordés, insultés, caillassés, mais des policiers toujours debout. Parce que bien sûr, quand les médias parlent de violence, c'est jamais de la violence d'État. Celle-là, on n'en parle pas, on l'applique. Juste avant une petite spéciale dédicace au Midi Libre, je voudrais vous dire. On voudrait vous dire. On vous lit plus, on vous écoute plus, on vous regarde plus et on vous emmerde.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier de bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans souffler rime rêveur, un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortant d'on ne sait pas où, toujours avec esprit bourraille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons quand sonne sa 20e année pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours il succombe sans cri, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Il fredonnait la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les Bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que de trembleurs ont dit depuis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux. Les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux. Car la misère en sa tenaille fait saigner leurs flancs amaigris. C'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Enfin, c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots. Mais qu'aujourd'hui, la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis.
Et donc voilà, donc on est toujours sur RGO, la quatrième chronique sur le mouvement social alésien. Et donc voilà, donc là on va finir en parlant un petit peu des perspectives du mouvement, enfin de la suite de ce qui s'est passé ces derniers jours et ce qui semble arriver pour la suite. Tout d'abord, ce qu'on pourrait souligner là, c'est qu'au niveau des syndicats et notamment de la CGT, depuis la semaine dernière et le congrès là, de la CGT à Marseille il y a 10 jours, il ressort qu'il y a vraiment une volonté en fait de construire une grève reconductible et générale. Autant par des appels au niveau national que là au niveau de l'Union départementale du Gard. Donc je vais vous lire un petit bout du dernier communiqué. Donc les unions départementales du Gard appellent leurs syndicats respectifs à se rencontrer afin de discuter, préparer et appeler ensemble dans les meilleurs délais à l'Assemblée générale des militants et salariés de leur entreprise, service, lieu d'études, pour débattre de la grève, de son ancrage dans la durée et des modalités d'action permettant d'aller jusqu'au retrait de la loi et l'obtention de nouvelles garanties collectives. C'est en construisant le mouvement au plus près des salariés, c'est-à-dire sur leur lieu de travail, et en les associant au maximum à la décision que celui-ci sera plus fort et plus solide. Donc voilà, donc en gros, ça se traduit depuis la semaine dernière, dès vendredi, le lendemain du 28, donc il y avait des assemblées qui. Enfin, il y a une tentative de mettre en place des assemblées dans chaque entreprise. Donc ça s'est poursuivi depuis, en fait, ça continue à se poursuivre. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une réunion à Nîmes de responsables syndicaux départementaux, justement pour faire remonter un petit peu tout ce qui s'est dit dans ces assemblées. Et voilà, donc pour essayer de construire cette grève reconductible. Voilà, sinon, ce que je peux dire, donc là, la semaine dernière, il y avait ce mouvement des intermittents qui était assez fort avec de nombreuses occupations de théâtre. Donc dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a eu un accord qui a été signé entre les syndicats de salariés, CGT, FO, le syndicat d'employeurs, donc la FSAC, la Fédération des entreprises du spectacle. Donc où en gros, ils sont arrivés sur un accord entre guillemets favorable pour les intermittents, c'est-à-dire que notamment ils ont obtenu donc l'allongement de jusqu'à maintenant les intermittents pour faire leur cachet d'intermittence, il leur fallait les calculer, les faire sur 10 mois dans l'année. Là maintenant ça a été étendu à 12 mois, donc c'était quelque chose qui était réclamé en fait depuis le mouvement des intermittents de 2003, donc ce qui est vraiment à noter. Et donc voilà, donc il y a cet accord qui a été signé, mais la mobilisation en fait ne s'arrête pas là, parce qu'en fait même si cet accord a été signé en interne au niveau de la branche, au niveau du spectacle, il faut encore que ce soit validé dans les accords finaux, la signature finale qui entre le MEDEF, ces accords sont dans les accords UNEDIC, les accords sur l'assurance chômage, et le MEDEF peut encore refuser cette partie-là et les autres accords de branche qui sont encore en train de se discuter. Donc il y a toujours des appels à la mobilisation au niveau des intermittents. Donc hier, il était encore recensé des occupations du Théâtre National de Toulouse, du Centre National Dramatique de Montpellier, du Théâtre National de Bordeaux, du Théâtre des Cordes à Caen, du Théâtre de Nice et de la Comédie à Valence. Et également à Rennes, donc il y avait le Théâtre National qui était occupé et l'occupation a été arrêtée pour rejoindre l'occupation de la Maison du Peuple à Rennes.
Et peut-être petit point sur l'histoire des intermittents, ce qui paraît quand même assez intéressant à noter, c'est que le gouvernement, là, il semblerait que, en fin de compte, il joue sur un truc qui va permettre de démobiliser des gens qui étaient prêts à rentrer dans la lutte, quoi. Donc là, ils sont en train de effectivement, comme le disait Philippe, l'accord est peut-être acquis. Mais pour l'instant, il n'est pas signé. Donc, il y a de grandes chances que ça soit, en fin de compte, un gain de temps. Donc, on pense que les intermittents ont bien compris ça, quoi.
Une nécessité, c'est donc de maintenir la pression, c'est ça que...
Tu m'étonnes.
Ouais. Et il faut d'autant plus la maintenir que même si les syndicats commencent à sérieusement parler de grève reconductible, etc., le communiqué commun qui émane de la CGT au niveau national, là, enfin CGT, FO, FSU, Solidaire, UNEF, UNEL et FIDEL, donc signé du 2 mai, c'est de faire du 12 mai une journée d'initiative et d'intervention l'interpellation des parlementaires, ce qui semble quand même encore un peu timide. Il y a un appel de la CNT à constituer un front unitaire syndical pour appeler à la grève générale illimitée. Au niveau des cheminots aussi, ça fait un moment qu'ils parlent d'éventuellement rentrer dans un mouvement dur de grève reconductible. Ils ne savent pas à partir de quand. Il y avait un appel à une manifestation à Paris le 10 mai. Il semblerait pour l'instant que ça n'ait pas été annulé. En tout cas, je n'ai pas trouvé de communiqué en ce sens. Mais en même temps, ça discute de plutôt partir sur le 12 mai ou sur le 17 mai en grève reconductible. Bon, c'est à suivre de près. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leur dernier comité, il épouse beaucoup plus... de manière beaucoup plus proche la question de la loi travail ils en font une cause aussi pour eux de manière plus claire qu'au début où c'était un peu plus sur ce qui concernait les accords internes à la SNCF et au transport. Et voilà. Et aussi, autre appel, il y a un appel qui s'appelle le 10 mai, joue-la comme à Mayotte. Voilà, c'est ça. Joue-la comme Mayotte, bloquons tout le 10 mai, parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais Mayotte a quand même connu une grève générale là de 15 jours, qui a complètement paralysé l'économie de l'île. Des arbres coupés par centaines ont bloqué les routes, empêchant toutes les entreprises de fonctionner et permettant d'enraciner leur détermination. Mayotte, c'est le 101e département français. Les habitants sont traités comme des citoyens de seconde zone, avec seulement 25% de la législation du code du travail qui est appliquée, un RSA à 50% de celui de la métropole, des allocations largement inférieures à celles de France métropolitaine et un chômage de 20%. Donc voilà, les Mahorais aussi sont en lutte et il y a un appel qui circule à bloquer l'économie le 10 mai.
Je crois qu'ils ont même eu droit à l'armée pour débloquer effectivement tous les barrages qu'ils faisaient quoi.
Voilà. Et il parlait notamment des axes routiers et on va
On va signifier aujourd'hui donc il y a l'évacuation du lycée Jean Jaurès à Paris qui était occupé par des sans-papiers depuis pas mal de temps. Donc là il y a une grosse mobilisation pour empêcher l'occupation.
Après avoir évacué Stalingrad là
il y a quelques jours
voilà,
aussi.
Il y a quelques jours.
Voilà, donc du coup il y a aussi sur ce côté-là au niveau des sans-papiers la lutte continue pareil avec beaucoup de solidarité avec les mouvements Nuit debout et on pourrait signifier aussi que là dans le Gard donc sur Nîmes donc ce samedi qui arrive, je ne sais pas encore combien on sera.
Le samedi 7 mai.
Samedi 7 mai, il y aura un rassemblement devant le centre de rétention de Nîmes, voilà, pour protester contre les centres de rétention et en solidarité avec les sans-papiers, à 17h devant le centre de rétention de Nîmes, samedi 7 mai.
Voilà, et il faut savoir que c'est un appel qui est international, hein, cette lutte contre les centres de rétention. Il y en aura ailleurs. Et on va se quitter avec une belle chanson d'une camarade du Vigan qui s'appelle Rétention.
Notre cerveau